Laudetur Jesus Christus.
Joe Biden contraint de sortir de son silence face aux manifestations pro-palestiniennes sur de nombreux campus américains. Certains étudiants ont dû être délogés par la police. Non à l'antisémitisme et au racisme, a tonné le chef de la Maison-Blanche. Une aide européenne au Liban en visite hier à Beyrouth. Ursula von der Leyen a promis 1 milliard d'euros au pays pour l'aider à gérer la crise des réfugiés syriens. Au sommaire de ce journal également, la popularité du gouvernement britannique en chute libre, en témoignent les premiers résultats d'élections locales hier en Angleterre. Nous irons à Londres. Nous reviendrons sur cet appel du pape hier aux curés de paroisse essentiels à la vie de l'Église, rappelle-t-il. 300 d'entre eux viennent de se retrouver à Rome pour une rencontre synodale. Et puis dans notre dossier, alors que dimanche aura lieu la journée des chrétiens d'Orient, gros plan ce matin sur l'église grecque catholique Melkite. Elle célèbre 300 ans de rapprochement avec Rome cette année.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Le conflit israélo-palestinien bouleverse l'agenda du président américain Joe Biden. Depuis plusieurs semaines, de nombreux campus universitaires américains sont sous tension en raison des manifestations pro-palestiniennes. Certains manifestants, comme à New York ou Los Angeles, ont dû être délogés de force par la police. En pleine allée électorale, le chef de la Maison-Blanche, pris en étau entre l'aile gauche du Parti démocrate et les républicains, a été contraint hier de prendre la parole pour dénoncer le climat de violence et les slogans racistes.
Détruire des biens n'est pas une manifestation pacifique. La protestation pacifique en Amérique est protégée. La contestation violente n'est pas protégée. La violence est contraire à la loi. Casser des vitrines, fermer des campus, faire annuler des cours et la remise des diplômes par la force, rien de tout cela n'est une manifestation pacifique. La dissidence ne doit jamais conduire au désordre ou à la négation des droits d'autrui. Les étudiants doivent pouvoir terminer leur semestre et leur formation universitaire. Les gens ont le droit de recevoir une éducation, le droit d'obtenir un diplôme, le droit de traverser un campus en toute sécurité sans craindre d'être attaqués. Mais soyons clairs sur ce point également. Il n'y a pas de place en Amérique, ni dans aucun campus universitaire pour l'antisémitisme ou les menaces de violence à l'encontre des étudiants juifs. Il n'y a pas de place pour les discours de haine ou de violence, quels qu'ils soient, qu'il s'agisse de sémitisme, de l'islam ou de la discrimination à l'encontre des Américains arabes ou des Américains palestiniens. C'est tout simplement inacceptable. Le racisme n'a pas sa place en Amérique.
Le président américain Joe Biden hier a depuis la Maison-Blanche. Sur le terrain, on attend toujours une trêve entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste palestinien qui dit étudier dans un esprit positif la dernière offre de cessez-le-feu qui comprend la libération d'otages en échange de l'élargissement de prisonniers palestiniens. Gaza où le coût de la reconstruction est estimé entre 30 et 40 milliards de dollars selon les Nations Unies. Des chiffres qui ne sont que des projections car la guerre y est toujours en cours. Un chiffre témoigne de l'ampleur de la destruction de l'armée israélienne. 72% des bâtiments résidentiels ont été partiellement ou totalement détruits, selon l'ONU. Hier, le roi Abdallah II de Jordanie était à Rome, où il a été reçu d'abord par les autorités italiennes, puis par le pape François au Vatican. Le souverain jordanien qui a évoqué devant le Saint-Père la nécessité de mettre un terme à la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Le souverain hachémite qui avait accueilli le pape François en 2014 a plaidé également pour la mise en place d'un cessez-le-feu durable. Et puis le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, était lui aussi à Rome hier. Ce qui se passe en Terre Sainte est une tragédie sans précédent, a-t-il déploré lors d'une conférence tenue à l'université pontificale du Latran. Le patriarche latin qui s'est inquiété du sillon de la division qui se creuse entre les communautés et la méfiance qui s'accroît chaque jour un peu plus. Plus d'informations à retrouver sur notre site vaticannews.va. 1 milliard d'euros pour le Liban, telle est la promesse faite hier à Beyrouth par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Un déplacement aux côtés du président chypriote avec en toile de fond la question des réfugiés syriens qui déstabilisent fortement le pays du Cèdre. Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Paul Ralifé.
Le déferlement vers l'île de Chypre depuis le début de cette année de centaines de migrants syriens en provenance du Liban a finalement poussé l'Union européenne à se pencher sérieusement sur les demandes formulées par Beyrouth depuis des années. Le premier ministre libanais a encore une fois répété devant ses hôtes la position de Beyrouth qui plaide pour un retour volontaire des réfugiés syriens qui constituent aujourd'hui le tiers de la population. Najib Miati a estimé que la solution au problème est politique par excellence et passe par la reconnaissance par la communauté internationale que la plupart des régions syriennes sont désormais sûres. Le chef du gouvernement a mis en garde contre une instabilité liée à la présence des migrants syriens au Liban qui risque de s'étendre à l'Europe. Face aux pressions chypriotes et libanaises, l'Union européenne a, semble-t-il, jeté du lest. Ursula von der Leyen a évoqué pour la première fois une approche plus organisée du retour volontaire en Syrie. L'enveloppe $1 milliard annoncée par la dirigeante européenne visera à renforcer les secteurs essentiels comme l'éducation, la sécurité sociale et la santé. Du matériel et des formations seront assurés aux forces de sécurité pour leur permettre de mieux contrôler les frontières. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Des élections locales sous forme de test pour le gouvernement britannique de Rishi Sunak. 11 maires, plus de 2500 conseillers municipaux et l'ensemble de l'Assemblée de Londres doivent être élus. Et les premières tendances sont sans surprise. Elles témoignent d'un net reflux des conservateurs et de l'impopularité du Premier ministre britannique. À Londres, Jean Jaffré.
Les premiers résultats qui ont commencé de tomber tôt ce matin confirment les prédictions. Le parti conservateur est en passe de perdre la moitié des 1000 sièges à pourvoir dans les conseils municipaux. Le Labour en profite pour en reprendre le contrôle. C'est notamment le cas à Hartlepool, bord dans le nord-est de l'Angleterre, une circonscription qui était passée aux conservateurs lors d'une partielle il y a 3 ans. Seulement un tiers des bulletins de vote ont été dépouillés. Il faut attendre les résultats des élections de maires des grandes villes, Manchester, Liverpool et Londres, plus tard dans la journée, voire samedi. Baisse du pouvoir d'achat, sécurité et accès aux soins, tels étaient les principaux thèmes de la campagne. La cote de popularité du Premier ministre Rishi Sunak est au plus bas. Visiblement, sa campagne pour refouler vers le Rwanda des migrants qui débarquent sur la côte sud, ainsi que la stigmatisation des personnes en arrêt de maladie et autres attaques contre le wokisme ne font pas bouger les lignes. En cas d'échec de la réélection de 2 maires de région bien implantés dans le nord de l'Angleterre, le 5e Premier ministre en 8 ans risque de devoir faire face à une rébellion de députés. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Taïwan regarde toujours avec méfiance son voisin chinois. Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé ce matin avoir détecté pas moins de 26 avions chinois et 5 navires autour de l'île ces dernières 24 heures. Dans moins de 3 semaines, le 20 mai, le nouveau président taïwanais Lai Ching-te sera investi. Il est considéré par Pékin comme un dangereux séparatiste. Et puis les services de renseignement sud-coréens accusent Pyongyang de préparer des attentats terroristes contre ses ambassades. Hier, Séoul a relevé le niveau de sécurité antiterroriste pour plusieurs de ses représentations diplomatiques au Cambodge, au Laos et au Vietnam notamment. 300 prêtres venus du monde entier étaient réunis ces 4 derniers jours à Rome pour se préparer à la 2e assemblée synodale prévue au mois d'octobre prochain. Regroupés en groupes de travail, les prêtres ont partagé leurs convictions et interrogations rassemblées dans des rapports envoyés au secrétariat du synode. Cette conférence internationale s'est terminée par une rencontre avec le pape François hier, le Saint-Père Alexandra Sirgan, qui a remercié les curés de paroisse pour leur engagement et service sans lesquels, a-t-il dit, l'Église ne pourrait pas aller de l'avant.
Oui, une Église synodale a besoin de ses curés de paroisse, a souligné le pape. Un message bien reçu par les prêtres qui ont apprécié le climat de communion dans lequel se sont déroulées les rencontres de ces derniers jours. C'est ce que nous a confié le père Gustave Wanmé, prêtre du diocèse de Dapaong au Togo.
La secrétairie du synode a su bien organiser les choses pour faire en sorte que cette rencontre soit comme une rencontre de paroisse. C'est vraiment un climat de grande fraternité, d'écoute mutuelle, d'échange, d'attention à l'autre. Et cela nous a fait beaucoup de bien pour fraterniser et pour mieux comprendre qu'est-ce que le pape attend aujourd'hui des paroisses.
Et parmi les attentes exprimées par le Saint-Père hier, celle que les curés de paroisse soient des constructeurs d'une église synodale missionnaire, une recommandation qui résonne chez le père Michael Dupont du diocèse de Reims.
L'aspect fondamental que j'ai beaucoup apprécié dans notre assemblée, dans nos discussions, c'est que la synodalité est synonyme de mission. C'est pas simplement une fraternité qui se met en place, une prise de décision commune. Le but ultime, c'est justement d'être missionnaire, d'annoncer l'évangile dans le monde.
Les résultats de la rencontre contribueront à la rédaction de l'Instrumentum Laboris, le document de travail utilisé pour la 2e session de l'Assemblée synodale prévue en octobre.
Alexandra Sirgan, merci beaucoup. Et pour retrouver toutes nos informations, une seule adresse, bien sûr, vaticannews.va. À l'approche de la journée des chrétiens d'Orient dimanche, intéressons-nous ce matin à une église particulière du christianisme oriental, l'église grecque melkite catholique. Très présente au Proche-Orient, cette héritière du siège patriarcal d'Antioche, de Jérusalem et d'Alexandrie célèbre en cette année 2024 une année jubilaire, le troisième centenaire de la restauration de la communion avec Rome. Éloignée du siège de Pierre après le grand schisme de 1054 entre Rome et Constantinople, une partie du clergé grec d'Antioche s'est ralliée en 1724 au monde latin pour des questions théologiques et politiques. Un état de fait qui consacre la vocation écuménique melkite à être ce pont byzantin de l'Église latine vers le monde orthodoxe. Nous en parlons ce matin avec Mgr Charbel Malouf, il est l'exarque patriarcal des melkites en France et il nous déchiffre ce matin la mosaïque melkite dans la galaxie des chrétiens d'Orient.
Malgré cette excommunication entre les deux grands sièges, Antioche est resté à l'écart. Mais après les croisades, il deviendra de plus en plus proche liturgiquement, spirituellement et même ecclésiologiquement de Constantinople. Avec les missionnaires au XVIe et XVIIe siècle, nous avons ici des éléments qui vont nourrir cette union à Rome. Plusieurs facteurs, d'abord non théologiques, qui vont amener à l'événement 1724 d'ordre social et politique. Par exemple, la rivalité historique entre Damas et Alep dans l'élection du patriarche d'Antioche. Ensuite, la relation très étroite entre le patriarche de Constantinople et la Sublime Porte. Je rappelle que nous sommes en plein empire ottoman. Évidemment, l'aspiration à la modernité de certains notables d'Antioche. Mais nous avons aussi des éléments théologiques qui vont être au sein de la controverse catholique-orthodoxe au sein du patriarcat d'Antioche. La primauté du pape, le filioque, l'épiclèse, le purgatoire, et la vision béatifique.
Comment qualifieriez-vous l'évolution des relations entre Rome et Antioche durant ces 300 ans, avec quels hauts et bas ?
La première époque, c'est le XVIIIe siècle. On est dans la joie de l'union, l'enthousiasme missionnaire. À partir du XIXe siècle, on commence à voir des réticences de la part de la hiérarchie melkite, parce que les melkites voulaient se débarrasser du joug de Constantinople. Et ils se sont rendus compte que, même avec Rome, nous allons rencontrer le même problème. Et donc la primauté du pape devient en quelque sorte un obstacle devant les prérogatives, les droits et les devoirs des patriarches. Cela montre une grande divergence dans la vision ecclésiologique. L'ecclésiologie romaine est plus pyramidale. L'ecclésiologie orthodoxe, disons plus largement orientale, est une ecclésiologie synodale. Le XXe siècle est un siècle, je ne peux pas dire, de calme et de paix. On connaît aussi le patriarche Maxime IV, lors du Concile Vatican II, on l'a appelé le lion du Concile parce qu'il a refusé beaucoup de choses, il a rappelé beaucoup de choses. C'est la voie orthodoxe au Vatican II. Notre raison d'être est une mission de pont entre le monde orthodoxe et le monde catholique. Nous sommes en union avec l'Église romaine, mais nous avons toute la tradition du monde orthodoxe et oriental.
Quel est le poids de l'Église grecque melkite aujourd'hui dans la mosaïque du christianisme oriental, sa vitalité spirituelle, les menaces qu'elle encourt?
Comme l'Église maronite, l'Église copte, évidemment, l'Église melkite au XXe siècle a connu beaucoup de personnalités, même dans la Renaissance, à Nahda, dans le monde arabe. Beaucoup d'auteurs sont d'origine melkite. Le rôle de cette Église en Syrie, au Liban et en Palestine et Égypte, en Terre Sainte, est un rôle fondamental. Nous avons une présence assez importante, mais une présence qui est une présence menacée par les guerres, par les persécutions, par les exodes massifs. Et ce, à partir de 1830, ce n'est pas nouveau. Puis 1860, puis toutes les guerres, la première guerre, la deuxième guerre, et puis tout ce qu'on voit en Syrie, en Irak, en Terre Sainte, en Israël. Notre Église souffre de cette situation. Elle va souffrir d'autant plus dans les années qui viennent, puisque beaucoup de nos fidèles quittent la Syrie, le Liban, la Palestine, etc., l'Égypte, pour aller en Europe, aux États-Unis, en Australie, etc. Ce qui fait que les enjeux de la situation géopolitique actuelle partout au Proche-Orient, les enjeux sont dramatiques, vont laisser bien sûr des séquelles importantes dans la présence spirituelle, pastorale, théologique et intellectuelle, culturelle au Proche-Orient.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, Mgr Charbel Malouf, l'exarque patriarcal en France de l'Église melkite, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain de rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée.